France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Fini les bains dans les hôtels des Pyrénées-Orientales. La mesure figure dans un plan d'économie d'eau établi par la préfecture. La région Occitanie, elle veut prolonger le tuyau qui achemine le précieux liquide du Rhône vers le Languedoc. On vous explique tous ces projets dans une minute. À Grenoble, un homme reconnaît avoir commis l'un des viols de ces dernières semaines dans la métropole. C'est l'affaire du violeur à trottinette. Précision dans quelques minutes. Et puis la réputation pour expliquer la mort de Chems Cédine, ce collégien tué la semaine dernière à Viry-Châtillon, la réputation d'une jeune fille avec laquelle il était en conversation. Ses deux frères sont mis en examen, voilà qui nous rappelle d'autres affaires. Nous en parlons avec la journaliste Laure Dossy, autrice de l'enquête La Réputation, parue à l'automne dernier. Dans une vingtaine de minutes, les Jeux avant les Jeux. On parle du marathon pour tous aujourd'hui, au lendemain du marathon de Paris. Et puis on parle aussi de la mort d'une légende du rugby français. Bonjour Fadi Le Chevestrier.
Bonjour.
Il s'agit d'André Boniface.
Décédé à l'âge de 89 ans, il restera effectivement comme l'une des plus grandes légendes du rugby français, l'incarnation du French Flair.
A tout à l'heure Fanny, à 13h30, les règles douloureuses chez les femmes, elles deviennent un sujet politique. De plus en plus de collectivités et d'entreprises proposent un congé menstruel pour celles qui en souffrent. Vos questions pour nos invités, 01 45 24 7000. 13h45, ils sont au cœur des enquêtes qui font l'actualité, les chiens policiers.
Si le chien est confirmé dans son test, pendant 40 jours, on vérifie sa progression. S'il confirme ses qualités naturelles, il dispose d'un matricule, il est intégré au cheptel de formation.
Nous saurons tout de leur formation grâce à notre feuilleton. 13h50, c'est la France, les racines alsaciennes d'une grande famille du cirque, les Grusses. Alexis Grusses nous a quittés ce week-end. Et puis juste avant 14h, carte blanche toute cette semaine au chanteur Raphaël, qui revisite les classiques de sa vie. Aujourd'hui, c'est David Bowie. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est le point noir après un hiver particulièrement humide en France. Faute de pluie, les nappes phréatiques du Languedoc et du Roussillon sont toujours très basses, plus basses que l'an dernier. Alors cela appelle deux types de réponses. À moyen terme, la région Occitanie réfléchit donc à acheminer l'eau du Rhône jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Célia Quiré va nous expliquer ce projet dans un instant. Mais d'abord, nous parlons d'une mesure de court terme. Face à la sécheresse, le préfet des Pyrénées-Orientales doit annoncer demain un grand plan d'économie d'eau. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Et parmi les mesures proposées, celles-ci, les hôtels ne pourront plus proposer de bains à leurs clients.
Oui, signature d'une charte avec l'hôtellerie-restauration. Pour se montrer exemplaire, il ne s'agit pas de restrictions. Les baignoires, donc, dans les hôtels de la région ne seront plus utilisables. Pour prendre des bains, la profession s'engage à faire disparaître tous les bouchons de baignoires dans les chambres d'hôtel. C'est écrit noir sur blanc sur cette charte. Mesure de bon sens également pour réutiliser l'eau des piscines ou des spas ou encore d'arrêter de laver à grandes eaux, les terrasses dans l'hôtellerie-restauration. Enfin, les glaçons vont également disparaître des seaux d'eau en coin de table. Engagement là aussi de la profession, de la même façon que l'on a limité il y a quelques années le lavage systématique des serviettes dans les hôtels. Le tourisme doit se montrer exemplaire, souligne le président de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, Brice Sanac.
Mais c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, un touriste qui vient dans les Pyrénées-Orientales, il va vivre le tourisme le plus responsable de France. Donc c'est sûr, dans les chambres particulières des clients où il reste encore quelques baignoires, eh ben on enlève les bouchons de baignoire, c'est une action commune. Sur les spas, sur les piscines, sur les jacuzzis, eh ben les eaux sont réutilisées pour l'irrigation des cultures. Les glaçons, je vous rassure, il y aura des glaçons dans le rosé. La seule chose, c'est des seaux. Les glaçons fondent dans l'eau se réchauffe et on jette ensuite cette eau-là. Alors, c'est pas réaliste. On ne touche en aucun cas au confort des clients. Par contre, on donne un engagement à leur consommation sur notre territoire.
1000 baignoires d'une capacité de 200 litres, ça n'a rien d'anecdotique. C'est quand même 160 000 litres d'eau économisés en un mois.
Merci Laurent Kramer. Voilà pour le volet économie. Et puis, il y a donc ce projet d'acheminement de l'eau depuis un autre bassin, celui du Rhône. Célia Quiré, la région Occitanie et l'État lancent une étude pour prolonger un aqueduc déjà existant.
Oui, aujourd'hui, un canal souterrain existe déjà entre le Rhône et le Languedoc-Roussillon. L'eau est puisée à Fourques, dans le Gard, en amont d'Arles. Elle est transportée dans un gros tuyau d'un mètre de diamètre, direction une station de pompage à Moguio, dans l'Hérault. Elle dessert Nîmes, Montpellier, sans oublier les communes littorales. Le projet de la région Occitanie est de prolonger cet ouvrage, Aqua Domitia, jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Le conseil régional lance des études préalables pour ces 140 km de canaux. Réflexion indispensable pour Fabrice Verdier, élu socialiste et président de BRL, opérateur régional en charge de ce réseau hydraulique.
Vous savez à quoi domicile aujourd'hui, c'est 40% pour les ménages, 40% pour l'agriculture et c'est 20% de substitution, c'est-à-dire que c'est une eau qui vient conforter des ressources qui sont en difficulté. Ça permettrait de le faire dans les Pyrénées-Orientales. On est présent dans le Gard, on est présent dans l'Hérault, on est présent dans l'Aude. Et cette eau, elle sert à tout le monde et à tous les usages.
Et ça pourrait prendre combien de temps ?
Pour être très raisonnable, c'est des projets très ambitieux, structurants. Il faut compter entre 8 à 10 ans.
Et en attendant, le débit du Rhône diminue avec le changement climatique. Aujourd'hui, 5% du fleuve est prélevé pour alimenter plus de 2 millions de personnes en eau potable. Mais ces prélèvements montent à 15, voire à 30% l'été. Il faudra donc en parallèle des mesures de sobriété. Le Rhône peut fournir de l'eau à des départements en difficulté. Mais la solution n'est pas magique non plus, prévient une ONG.
Célia Kiré, là c'est la qualité de l'eau qui est en cause. Celle de la Seine, en l'occurrence, pas pour la boire, mais pour y nager. Ce matin, nous vous avons révélé cette étude menée par l'ONG Surfrider Foundation. Selon ces prélèvements réalisés depuis septembre, dans le fleuve, la Seine n'est toujours pas adaptée à la baignade. Or, plusieurs épreuves de natation doivent s'y dérouler cet été pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, rien d'alarmant pour lui, ces tests sont intervenus trop tôt.
Évidemment, les prélèvements, s'ils sont faits en ce moment, ne peuvent pas correspondre aux normes de baignabilité puisque les usines de désinfection ne fonctionnent pas. À l'heure actuelle, elles ont été mises à niveau. Elles ont fonctionné l'été dernier et elles refonctionneront pour les Jeux Olympiques. Mais en période de septembre à mars, date des prélèvements dont nous parle Surfrider, elles ne sont pas en fonctionnement. Donc il n'a pas de sens d'aller faire des prélèvements aujourd'hui dans la Seine et de les comparer à ce que ce sera cet été. Par ailleurs, nous le savons très bien, nous avons eu un premier trimestre avec beaucoup de pluie depuis le début de l'année, 250 mm sur les trois premiers mois, c'est-à-dire le double de l'année dernière. Et évidemment, quand il pleut, la qualité de l'eau est dégradée, mais nous n'aurons pas en tout état de cause, quel qu'il soit, on aura peut-être des orages, mais nous n'aurons pas ce volume de pluie cet été.
La réponse de Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France. Des viols et agressions sexuelles en série ont créé un début de psychose autour de Grenoble le mois dernier, jusqu'à l'arrestation vendredi dernier d'un homme suspecté d'être celui que la presse a surnommé le violeur à la trottinette. Au total, la police enquête sur 7 faits, dont 2 viols. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Et cet homme de 22 ans a reconnu l'un de ces viols.
Oui, ce sont la vidéosurveillance, le bornage de son téléphone et cette trottinette, donc, qui ont permis de mener jusqu'à ce suspect qui réfute cependant être un violeur en série, comme l'a précisé ce matin Éric Vaillant, le procureur de Grenoble.
Il n'a pas reconnu les autres 6 faits que nous lui reprochons. Il a reconnu le fait de viol pour lequel il est confondu par son ADN. L'enquête se poursuit pour savoir si effectivement nous pourrons ou non lui reprocher l'ensemble des faits dont le parquet a saisi la juge d'instruction.
Et le nombre de viols qui lui seront attribués est important puisque si les enquêteurs considèrent qu'il y en a eu 2 ou plus, la peine encourue passe de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Mais l'avocat du jeune homme appelle à rester prudent. Arnaud Lévy-Soussan au micro de France Bleu Isère.
Il a effectivement admis l'un des faits qui lui sont reprochés, ce qui est quand même la preuve qu'il est capable d'assumer la partie la plus grave de son comportement. Pour ce qui concerne les autres infractions, on a parfois des modes opératoires qui sont complètement différents et on a des rapprochements qui, à mon sens, en l'état, sont effectués de façon peut-être un peu hâtive et approximative.
Alors, nous avons parlé de 7 faits. Outre les 2 viols, le jeune homme est également soupçonné d'une tentative de viol, une tentative d'agression sexuelle, une tentative d'extorsion de fonds et 2 faits de violence. Liste qui pourrait s'allonger puisqu'un appel à témoins a été lancé le 26 mars, il a suscité à ce stade plusieurs réponses, dont une plainte formellement déposée à ce stade.
Ariane Grissel, pour ses précisions, sa mort serait liée au trafic de drogue, selon le parquet. Un jeune homme de 24 ans tué par balle la nuit dernière à Marseille. Cela s'est passé près du quai de la Joliette, dans le 2e arrondissement de la ville. Cet homme était connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants et c'est le 2e mort cette année en lien avec ce type de trafic. Dans l'Essonne, la justice retient à ce stade, la préméditation après la mort de Chemseddine, ce collégien de 15 ans tabassé jeudi dernier à la sortie de son établissement à Viry-Châtillon. 4 jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat la nuit dernière. 2 frères sont notamment mis en cause. Et parmi les motivations de cette agression mortelle, le procureur d'Evry explique que ces 2 jeunes, je cite, craignaient pour la réputation de leur sœur et de leur famille, car leur sœur correspondait, ajoute le procureur, avec d'autres jeunes dont Chemseddine, et il était question dans leurs échanges de sexualité, ce que n'auraient donc pas supporté ses deux frères. Bonjour Laure Dossy.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Charlie Hebdo. Vous avez publié à l'automne dernier une enquête qui s'intitulait « La réputation ». Enquête sur l'histoire de Shaina, cette adolescente brûlée vive à Creil en 2019. Vous avez démonté le mécanisme qui avait mené à sa mort. Je rappelle qu'elle avait été poignardée par son petit ami, puis brûlée vive. Et là déjà, la réputation, la mauvaise réputation était au cœur de l'engrenage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce mécanisme, cet engrenage, et à quel moment la réputation peut être un déclencheur dans le passage à l'acte ?
Oui, j'ai pu constater que c'était une notion très présente, exacerbée dans certains quartiers, et à chaque fois ça repose en fait sur des interdits autour du corps, autour de la pudeur et autour de la sexualité, et évidemment ça s'applique avant tout pour les adolescentes, pour les filles. Et en fait, voilà, elles sont leur honneur quelque part, leur respectabilité repose sur tout un tas d'interdits, le fait de s'habiller de manière pudique, le fait de ne pas avoir de relation avec les garçons, le fait de devoir rester vierge pour le mariage. Beaucoup d'entre elles me témoignaient de cela. Et quelque part, les garçons, et là on le voit dans ce nouveau fait divers, oui, les garçons se font le garant de la réputation de leur sœur, dans une mentalité éminemment patriarcale. Quand j'ai fait mon enquête à Creil, des garçons me disaient « Mais nous, on ne va pas draguer une fille qui a un grand frère, par exemple. » Ça, c'était l'interdit. Voilà, quelque part, comme si d'ailleurs le fait de draguer aussi était quelque chose déjà qui pouvait souiller une fille en fait. Enfin, voilà, dès qu'il y a trait à une forme de séduction, de sexualité, c'est quelque chose qui peut faire que les filles deviennent des proies et les garçons sont eux censés protéger, enfin eux ils le perçoivent comme ça, ils sont censés protéger leur sœur. Et on voit que c'est une logique qui peut mener au pire, et là y compris à ce qu'un garçon soit tué.
Vous avez employé le mot de patriarcat, c'est le poids du patriarcat, du machisme, de la religion aussi, qui explique ces attitudes.
Oui, c'est un mélange de tout cela. Ce sont des garçons qui... Alors, c'est pas immédiatement la religion, c'est un mélange de différentes choses. Et c'est vrai que c'est une mentalité où les garçons se font donc le garant de la protection, entre guillemets, de leur sœur, mais ce qui confine à les surveiller, évidemment, à ce qu'elles ne soient pas libres. Et alors, il y a... Voilà, je pense que c'est aussi... leur seul horizon, c'est le groupe, c'est les lois du groupe. Il y a une impossibilité à voir d'autres valeurs, à être ouvert à d'autres manières de vivre et de fonctionner. Et certainement, la religion peut asseoir cela, en tout cas, cette injonction à la pureté et à la virginité. Oui, c'est en partie influencé par une vision rigoriste de la religion.
À Creil, c'est donc Shaina qui en avait été victime. Là, la particularité, c'est que c'est un jeune garçon qui en est victime. C'est Chemseddine. C'est la particularité peut-être de cette affaire par rapport
à
d'autres.
Oui, je trouve que c'est... Malheureusement, on voit que les garçons, enfin, en majorité, ce sont les filles qui sont victimes de ça au quotidien, parce qu'elles se doivent, pour ne pas devenir des proies, de suivre tout un tas d'interdits qui leur est imposé. Mais on voit aussi dans cette affaire, en effet, que les garçons peuvent aussi en être victimes dans un cercle vicieux totalement absurde, puisque les garçons eux-mêmes s'en prennent un autre garçon. Et je crois aussi que les familles parfois appuient ça. Je me souviens de ce père de famille qui me disait je préfère que mon fils soit en prison plutôt que ma fille soit considérée comme une traînée. Donc on voit jusqu'où cette réputation peut mener, c'est-à-dire qu'un père de famille préfère, il me disait, mon garçon s'il est en prison, il purge sa peine, mais ma fille, si elle est considérée comme une traînée, rien ne pourra sauver sa réputation. On voit jusqu'où mène cette notion de réputation.
Merci Laure Dossy pour cet éclairage. Je renvoie à votre enquête publiée à l'automne dernier, La réputation, enquête sur la fabrique des filles faciles. C'est aux éditions Les Échappées. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14. Toujours dans cette ville dont on parlait à l'instant, Viry-Châtillon, une rixe entre adolescents a éclaté hier après-midi. Elle a fait un blessé. Ce jeune garçon a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Sur ce dossier de la violence des jeunes, le gouvernement dit vouloir agir très tôt dans la scolarité. Dès les premiers signes, dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui évoque, je cite, la mise en place de conseils disciplinaires à l'école primaire. Il n'y a pas de conseil de discipline en tant que tel, explique-t-elle. En fait, Fabien Cassel, Cazot, il existe déjà un dispositif qui permet d'éloigner un élève d'une école.
C'est une procédure en deux temps qui s'applique depuis la publication d'un décret l'été dernier, signé notamment par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal. Le texte prévoit pour un élève faisant peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, une réunion des équipes pédagogiques autour du directeur, réunion pouvant déboucher sur une interdiction d'accès à l'école pour l'élève concerné pour une durée maximale de 5 jours. Si l'élève persiste ensuite dans son comportement, c'est l'administration de l'Éducation nationale qui prend le relais via le directeur académique du département où se situe l'école. Lui peut procéder à la radiation pure et simple de l'élève des effectifs de son école et le faire réinscrire dans une autre où il fera l'objet d'un suivi pédagogique renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Selon le ministère, ce sont surtout des élèves de CM1 ou de CM2 qui ont été concernés par ces procédures jusqu'à présent.
Explication Fabien Cazot. Le Premier ministre Gabriel Attal a fait toute une série de propositions hier matin dans la presse quotidienne régionale pour régler le problème des pénuries de médecins. Et ces propositions font réagir. Citons-en deux, l'instauration d'une taxe de 5 euros pour les patients qui ne se rendent pas à leur rendez-vous. Nous verrons dans un instant ce qu'en pensent médecins et patients dans la Sarthe. Et puis il y a cette volonté du Premier ministre de permettre aux patients de prendre rendez-vous chez un spécialiste sans passer par son généraliste. Inacceptable pour le premier syndicat majoritaire chez les médecins généralistes, le syndicat MG France. Il décide de suspendre sa participation aux négociations avec l'assurance maladie pour établir les tarifs de l'an prochain. Johan Sénac est le délégué du syndicat en région Île-de-France.
On veut que les Français aient un meilleur accès aux soins. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que pour avoir un rendez-vous en médecine spécialisée, le point bloquant, ce n'est pas le médecin généraliste, c'est l'accessibilité au rendez-vous en médecine spécialisée. C'est pour ça qu'il faut que les recours soient vraiment pertinents. Donc la préoccupation et les objectifs d'accès aux soins, on les partage, mais la solution n'est pas bonne. Dans plus de 9 cas sur 10, la consultation en médecine générale, elle ne débouche pas sur un recours au spécialiste. On est capable de traiter la plus grande majorité des soucis de santé qui se présentent à nous en médecine générale. Et parfois, on va avoir besoin d'un recours spécialisé. Si demain, on ouvre, entre guillemets, sans plus aucun filtre finalement, l'accès direct à la médecine spécialisée, c'est ce qui s'est passé jusqu'aux années 2005, hein, on risque de nouveau de se retrouver avec des embouteillages encore plus grand chez le spécialiste et des personnes qui ont, pour le coup, vraiment besoin d'un rendez-vous, mais qui vont voir les délais s'allonger.
Johan Sénac du syndicat MG France au téléphone de Victor Dolande. Alors, autre annonce donc très commentée, cette taxe lapin pour les patients étourdis ou irrespectueux qui n'honorent pas les rendez-vous pris. Sujet particulièrement sensible dans la Sarthe où 100 000 personnes n'ont pas de médecin traitant. Hier, une réunion publique s'est tenue sur la commune de La Chapelle-du-Bois avec généralistes, urgentistes, parlementaires et une association de citoyens. Et cette idée de sanctionner les patients ne passe pas du tout, Julia Beaufis.
Caroline Brémaud est urgentiste à Laval et cofondatrice du mouvement des Gilets Blancs. La taxe lapin, elle ne saisit pas l'objectif.
Comme d'habitude, on fait porter la responsabilité aux citoyens, aux usagers, on les culpabilise. Du coup, c'est une mesure qui est inutile et délétère et dérisoire.
Anne Souiri, sénatrice écologiste de Paris, insiste.
C'est pas une question d'argent, en fait, hein. C'est une question de volonté politique.
Alors, quelle solution concrète? Un début de réponse avec Michel Landé, médecin retraité qui prend encore des patients à La Ferté.
Une régulation s'impose. Deuxièmement, il faut limiter les remplacements. Il faut le limiter à 3 ans. Troisièmement, il faut faire des délégations de tâches.
Il pense par exemple aux infirmières libérales. Enfin, il propose une prime à l'installation pour les médecins de 4e année s'ils restent là où ils sont, s'ils veulent bouger. Pas de prime. Rosine Leverrier, membre des comités de défense des hôpitaux de proximité, ajoute
« Arrêtez de favoriser la santé privée au détriment de la santé publique. »
Guillaume Garot, député de Mayenne, conclut
« Notre santé ne peut pas dépendre de notre code postal. »
Et il y a urgence, 9 millions de Français n'ont pas de médecin traitant.
En reportage France Bleu Maine, le gouvernement veut donc montrer qu'il peut réformer malgré la situation financière dégradée. Et puis avec dans un coin de la tête les élections européennes dans 2 mois et 1 jour. Or la tête de liste de la majorité, Valérie Ayé, est partie tard en campagne. Elle est à la peine dans les enquêtes d'opinion, en deuxième position, mais distancée par Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Alors ce n'est pas le président du RN qui a choisi la candidate de Renaissance pour débattre ce soir sur la chaîne CNews. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Valérie Ayé va débattre avec Marion Maréchal, la candidate de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour, et voilà un choix qui interroge.
Mais oui, pourquoi diable Valérie Ayer irait-elle s'afficher en duel face à une candidate en grande difficulté, testée autour de 6% dans les sondages et qui ne parvient pas à décoller? Parce que Marion Maréchal reste une star, quand Valérie Ayer manque encore de notoriété, assume-t-on dans son entourage. Et puis surtout, elles ne sont d'accord sur rien, c'est vision contre vision, idéale pour mobiliser notre socle. Cela tombe à pic, le pacte asile et immigration sera voté mercredi au Parlement européen, soutenu par la majorité présidentielle et trié par Reconquête. Valérie Ayer, qui n'a donc pas encore rencontré son principal rival, Jordan Bardella. Jusqu'ici, le candidat RN se dérobe à tous les débats organisés. Il estime qu'il a tout à perdre et envoie ses colistiers à sa place. Mais il a accepté un premier duel sur France Inter ce vendredi face à Raphaël Glucksmann, candidat du PS. Un choix qui a été mûrement pesé. Débattre avec lui, c'est le faire monter, assume l'entourage de Jordan Bardella, et donc affaiblir Valérie Ayer et le camp présidentiel pour tenter d'asseoir un peu plus l'avance du RN sur le parti Renaissance.
Merci Marie Mollet pour ce décryptage. L'Allemagne, elle doit se défendre aujourd'hui devant la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU. C'est le Nicaragua qui a intenté cette action en justice. Le pays d'Amérique centrale accuse Berlin, je cite, de faciliter la commission d'un génocide contre les Palestiniens en vendant des armes. L'Allemagne figure au deuxième rang des pays qui livrent des armes à Israël. En Israël, où la parole des 2 millions d'Arabes israéliens se libère très progressivement, car depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, ils n'ont plus voix au chapitre interdiction de manifester ou de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques semaines, l'étau se desserre donc très légèrement et ils sont de moins en moins considérés comme des ennemis de l'intérieur. Reportage Thibault Lefebvre.
Nisrine Mourkous est une militante.
Je ressens de l'empathie. Pourquoi un bébé doit-il être tué juste parce qu'il est palestinien ?
Elle est arabe, elle se présente comme palestinienne de nationalité israélienne et elle dirige un mouvement féministe qui défend l'égalité et exige la fin des combats à Gaza.
On a l'impression de vivre sous régime militaire. Nous n'avons pas le droit d'exprimer nos émotions par rapport à ce qui se passe à Gaza. Les temps sont durs. Sur les réseaux sociaux, ils surveillent ce que nous écrivons. On vit ici. Pourquoi au lendemain du 7 octobre avons-nous commencé à être coupables ?
Katie Barra est-elle juive ? Et comme Nisrine Mourkous, elle milite dans des associations de gauche.
C'est difficile parce que beaucoup d'amis ont été touchés par le massacre du 7 octobre.
Et pourtant, avec son groupe des maires contre la violence, elle aide des Arabes israéliens ou palestiniens d'Israël à organiser des rassemblements.
On ne leur a pas donné une bonne vie en Israël. Nous n'avons jamais trouvé le moyen de vivre ensemble. Ce sont eux qui ont trouvé à chaque fois le moyen de vivre avec nous.
Et le 7 octobre n'a clairement pas favorisé la coexistence. Après le drame, le chef de la police israélienne avait assuré que chaque personne qui exprimerait sa solidarité avec Gaza serait envoyée en bus dans l'enclave.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Les Jeux avant les Jeux, notre rendez-vous compte à rebours avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est avec vous Nathalie Yanetta. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jérôme.
Directrice des sports de Radio France. Alors le marathon de Paris s'est couru hier, mais vous en voulez encore Nathalie. Je suis pas sûr que les 54 000 qui ont bouclé soient de votre avis. Mais passons, le marathon pour tous. C'est le prochain marathon à Paris, cette course qui va doubler le marathon olympique l'été prochain. Ce sera une première dans l'histoire olympique.
Absolument, parce que depuis le début, les organisateurs ont une obsession, c'est ouvrir grand les Jeux. Vous en souvenez, c'était le slogan, plus que ça même, oui. Une promesse. Alors comme on râle beaucoup sur le côté populaire, pas si populaire, bah là au moins la promesse, elle est tenue, offrir ce rêve olympique, comme à son origine pour la participation des amateurs et des fondus de fond.
Sauf que si je chipote un peu, lui non plus n'est pas totalement ouvert à tout le monde.
Alors la notion de mérite, monsieur Cadet, est consubstantielle du sport. On mérite
certes. Un
dossard gratuit pour parcourir le même trajet que les qualifiés aux Jeux. Ça a été un raz-de-marée d'ailleurs dans les inscriptions, ils ont été complètement débordés, les organisateurs. Plus de 400 000 personnes de 110 pays ont postulé, en majorité bien sûr en France, mais aussi beaucoup viennent des États-Unis et de la Belgique. Au total, 40 048 dossards vont être distribués, 20 024 Vous avez la ref ?
Oui, ça va.
Pour le marathon, autant pour sa petite sœur de 10 km, à parité parfaite homme-femme. Pour y participer, il fallait remplir un certain nombre de critères avec des points glanés notamment sur des courses. Aujourd'hui, il en reste un peu moins de 3000 à gagner d'ici le mois de juin. Mais là, c'est un partenaire des Jeux qui va se charger de cette dernière chance pour vous, Jérôme, par exemple, si vous voulez. C'est un partenaire téléphonie qui a un nom de couleur ou d'agrumes, si vous préférez.
Je vois.
Il faut aller dans ses boutiques ou sur le site du Marathon pour tous. Et alors vraiment, si vous décrochez pas ce fameux dossard, eh bien, il vous restera le marathon connecté pendant 2 jours dans les fanzones et sur une plateforme partout en France et dans le monde. Eh bien, vous pourrez participer au plus grand marathon du monde virtuel. On a compris que pour les organisateurs, l'enjeu c'était de faire bouger les gens.
Alors, dans le détail, le marathon et le 10 km, ce sera quand et où? Est-ce que c'est sur le même tracé que les Olympiques?
Même tracé à la foulée près. Le 9 août, le marathon olympique homme, ce sera couru à 8h du matin. Eh bien, le 10 août, ce marathon pour tous partira à 21h. Alors, c'est pour éviter les grosses chaleurs potentielles. 2 heures plus tard, en gros, pour le 10 000, les Kipchoge et Assefa du dimanche vont s'élancer de l'hôtel de ville pour arriver sur l'esplanade des Invalides. Et entre-temps, ils auront longé les quais jusqu'au château de Versailles. Et vous savez pourquoi ce parcours a été imaginé?
Non.
Eh bien, parce que c'est un tracé féministe. Il s'est calqué sur la marche des femmes lors de la Révolution française, lorsque des milliers de Parisiennes affamées étaient parties de l'hôtel de ville pour foncer sur la demeure de Louis XVI et le forcer à ratifier la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Les femmes qui courent le marathon olympique auront d'ailleurs l'honneur ultime de clore cette 33e Olympiade de l'histoire. Jamais, jamais les femmes n'avaient couru avant la cérémonie d'ouverture, c'était toujours réservé aux garçons. Et bien ça sera chose faite le 11 août, 40 ans après avoir eu le droit pour la première fois de participer à la plus ancienne et la plus mythique épreuve olympique. C'était en 84 à Los Angeles.
Merci Nathalie Yaneta. Vous avez votre dossard pour ce marathon?
Non.
Tous? Non, pas encore. Ça va venir, évidemment. Ça
Parce que pendant les Jeux, on n'aura que ça à faire, nous, de courir.
Exactement. Vous allez courir, mais d'une autre façon. Merci Nathalie Yaneta. À lundi prochain. Et puis, on a appris ce matin, en tout cas, il y a quelques minutes, la disparition d'un grand nom du rugby français. Je vous en ai parlé en titre. Le landais André Boniface, ancien trois quarts centre de Mont-de-Marsan et de l'équipe de France. Il est mort à l'âge de 89 ans. Fanny Le Chevestrion vous retrouve. André, indissociable de son frère Guy, évidemment.
Oui, Guy et André Boniface, les Bonis qui ont écrit les plus belles heures du rugby français dans les années 60. Le duo incontournable au centre du 15 de France, symbolisé par une victoire dans le tournoi des 5 nations en 1962, avant le décès tragique à l'âge de 30 ans seulement de Guy, dans un accident de voiture. André et Guy Boniface, deux des plus grandes légendes du rugby tricolore, c'était aussi et surtout un style, le fameux French flair, longiligne, grassé, avec un jeu spectaculaire porté vers l'attaque. André a régalé durant 12 années, 48 sélections, les fans de ballon ovale avec le maillot bleu sur le dos. Lui qui restera aussi dans l'histoire pour avoir été du premier 15 de France à avoir battu en 1954 les All Blacks, l'équipe dont il amènerait le jeu. Il n'avait alors pas 20 ans. Né à Montfort en Chalosse, André Boniface était aussi l'homme d'une région, les Landes, et d'un club Mont-de-Marsan dont il a porté le maillot jaune et noir pendant 20 ans avant d'y devenir entraîneur. Les supporters le voyaient encore l'an passé assister à tous les matchs du club dans un stade rebaptisé il y a quelques années, Stade André et Guy Boniface.
Merci Fanny Le Chevestrier, toute cette histoire relatée par notre excellent confrère Denis Lalanne. Ça s'appelle Le Temps des Bonis. Allez-y et sans modération. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons des règles douloureuses. Faut-il instaurer un arrêt menstruel pour les femmes qui en souffrent? Le débat monte alors que des entreprises, des collectivités et des universités n'ont pas attendu la décision politique pour le faire. J'attends vos appels, questions et témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec les chiens policiers cette semaine. Comment sont-ils recrutés, formés? Nous verrons tout cela. À 13h50, c'est la France. Bonjour Thomas Negarov.
Bonjour Jérôme.
Nous serons en Alsace avec vous.
Oui, c'est pas de chiens mais de chevaux, parce qu'on a appris la mort d'Alexis Grus, grand écuyer. Avec lui, le cirque est redevenu traditionnel. Et on ira en Alsace, en effet, où tout a commencé.
Ah, et où toute cette très longue histoire, oui, qui se poursuit d'ailleurs, a débuté il y a plus de 150 ans. Et puis, juste avant 14h, Pat, c'est une chanson exceptionnellement cette semaine, mais une carte blanche au chanteur Raphaël. Ashes to ashes, phone to funky. We know Major Tom is the junkie, strung out in heaven's height, eating an old time low. les chansons qui l'ont marqué et aujourd'hui avec David Bowie. La suite dans quelques minutes.
Je reste pas un jour de plus au speed, malade.
T'avais dit une crise médiatique, ça dure 72 heures.
Oui.
Ben là, ça fait 4 mois.
L'émotion reine aujourd'hui, c'est le ressentiment, pas la niaiserie.
Elle réclame le droit au port d'armes.
Quelle époque merveilleuse.
Affronter la crise médiatique avec la fièvre. La nouvelle création originale Canal+, par le co-créateur de Baron Noir. Nouvel épisode, ce soir, seulement sur Canal+. Premier épisode offert via MyCanal.
Articulé, je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Bah oui, mais...
Chacun, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toits ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un temps agité.
Oui, alors sur la façade ouest, on a des pluies qui approchent avec du vent, surtout sur le Finistère. Vigilance orange annoncée à partir de 16h. Le vent se renforce jusqu'à 90 à 110 km à l'heure, 120 à 130 sur les côtes. Cette nuit, ça soufflera jusqu'à 80 à 110 km à l'heure vers la Manche. Attention aux vagues et aux risques de submersion sur le Finistère en fin de journée, mais aussi demain jusqu'au Cotentin au moment des pleines mers. Vers l'embouchure de la Seine, des débordements sont attendus. Eure et Seine-Maritime sont en vigilance orange crue. Des Pyrénées vers le nord de la Seine. Là, c'est instable avec des averses parfois accompagnées d'orages, surtout des Pyrénées à la Champagne avec de la grêle et du vent en prime. Et puis plus à l'est, davantage d'éclaircies, des températures très douces, 15 à 21 degrés du nord-ouest au Pas-de-Calais, 20 à 25 ailleurs, jusqu'à 27 encore sur le flanc est. Et puis demain, des averses parfois orageuses attendues, des éclaircies également et des températures en nette baisse.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Deux propositions de loi déposées en quelques semaines, l'une au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, pour créer un arrêt menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Elles sont 53% à se dire concernées par ce phénomène. Alors aucun de ces textes n'a été adopté, mais le sujet est désormais posé dans le débat public et sans attendre que la loi ne change, des entreprises, des collectivités et des universités mettent déjà en place cet arrêt ou congé, les deux mots sont employés par les défenseurs de cette mesure. Alors peut-on dire pour autant que le tabou des règles est tombé? Quel bénéfice attendre d'une telle mesure? Quelles sont ses limites? Puisque certaines associations féministes la contestent. On en parle avec vous, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter si vous étudiez ou si vous travaillez par exemple dans une entreprise qui l'a mise en place. Vous nous appelez. Je vous présente nos invités. David Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'université de Rouen, où vous avez créé en octobre dernier un congé menstruel. Vous allez nous expliquer tout cela. Vous intervenez, et je les en remercie, en direct des locaux de nos confrères de France Bleu Normandie à Rouen. Avec nous également Aline Boeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous avez publié en septembre dernier un essai intitulé « Briser le tabou des règles » après en avoir fait votre sujet de recherche et mené de nombreux entretiens sur ce sujet. Nous sommes également en ligne avec Ludivine Brousse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice marketing chez Louis, c'est un fabricant de mobilier en bois. Vous êtes installée à Labège, en Haute-Garonne, et votre entreprise a été la première en France à proposer des jours de repos menstruels à ses salariés. C'était en 2022, Ludivine Brousse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez proposé à l'époque cette mesure dans votre entreprise ?
Oui. Alors nous, on était concernés parce qu'une des personnes qui travaillait sur la partie production, donc qui était ébéniste, était régulièrement absente. Et c'est vrai que nous, au sein des équipes, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi elle n'était pas là régulièrement? Et en discutant, on a appris que justement, c'était lié donc au fait qu'elle ait des règles douloureuses et que cette personne-là était obligée de finalement poser des jours de congés payés régulièrement et se retrouver donc sans congé parce que tous ces congés payés étaient utilisés pour se reposer pendant qu'elle avait ses règles.
Elle a mis du temps à vous en parler ?
Je pense que ça avait duré, ça faisait déjà un an qu'elle était dans l'entreprise. Mmh. C'est vrai, nous, on était arrivés depuis quelques mois et c'est à ce moment-là où on s'est intéressé un peu plus à cette personne-là.
Et donc, décision a été prise de proposer un congé menstruel ?
C'est ça, exactement. Donc nous, on avait des temps de parole qui étaient libres tous les trimestres où justement on a évoqué cette idée-là et ça a été accepté par l'entreprise pour monter ce projet. Et ça part de là où du coup on a monté le projet et au fil des mois, on en est arrivé donc à mettre en place le congé menstruel au sein de l'équipe chez lui.
Comment ça se passe? Il faut passer par le médecin ou bien c'est juste une déclaration? On dit à son responsable, bah voilà, je me sens pas bien aujourd'hui pour telle ou telle raison et je ne peux pas venir.
Alors, c'est plutôt la deuxième version. L'idée, c'était pas d'avoir quelque chose de contraint. Donc, c'est simplement basé sur la confiance. Et donc, il suffit simplement de prévenir son manager comme quoi on ne pourra pas être présent ce jour-là parce que, justement, on souffre de règles douloureuses. Il n'y a pas besoin de passer chez le médecin.
L'une des critiques qu'on entend à cette mesure, on l'a encore entendu à la faveur des débats au Sénat, c'est que ça favorise quand même l'absentéisme. Certaines femmes vont en profiter pour être absentes alors qu'elles n'ont absolument pas mal. Est-ce que vous entendez cette critique? Qu'est-ce que vous avez constaté chez vous, tout simplement?
Alors nous, c'est quelque chose qui est plusieurs fois revenu. Nous, ça ne s'est jamais présenté. Ce n'est pas parce qu'on a ce droit-là qu'on va en abuser. Le congé a été utilisé pour les personnes qui en avaient besoin. Ce n'est pas toutes les femmes qui le prennent au sein de l'entreprise. Ce n'est pas à chaque fois. Et il n'y a jamais eu d'abus. Par contre, il y a eu une vraie discussion qui a été faite, nous en interne et aussi vers l'externe, pour bien faire comprendre et qu'il n'y avait pas ce risque d'abus.
Et c'est donc vous qui avez fait la proposition, mais c'est votre patron qui l'a validé et qui en est aussi à l'origine. Donc ça peut se passer, j'allais dire, en bonne entente entre hommes et femmes dans les entreprises.
Oui, exactement. Nous, c'était une équipe qui a été montée en interne, collectivement, une équipe mixte qui a permis de mettre ça en place.
Merci Ludivine Brousse pour ce témoignage. Fait réagir Aline Boeuf. C'est la preuve que les choses évoluent. Vous avez publié à l'automne dernier « Briser le tabou des règles ». Est-ce que c'est ce à quoi on assiste en ce moment ?
Oui, on voit vraiment que le sujet est plus présent dans la sphère publique et qu'on en parle plus facilement. Mais on voit aussi qu'on fait face à des incompréhensions, un manque de connaissances aussi par les personnes qui ne sont pas menstruées, de comprendre quelle est la réalité des personnes qui ont leurs règles et qui ont des règles douloureuses.
J'ai employé les deux termes, congé ou arrêt. Les congés, c'est par exemple ce qui se passe dans cette entreprise-là de Haute-Garonne. Et arrêt, c'est quand on passe par une loi, quand c'est pris en charge par la santé publique. C'est ça la différence ?
Non, je crois que la différence, elle est pas encore très claire parce qu'il y a aussi une question, on va dire, un peu politique, de communication derrière, de comment est-ce qu'on veut appeler cette mesure. Le congé menstruel, il peut prendre différentes formes selon les pays, selon les organisations, selon les règles qui sont mises en place. Et on est encore en phase de discussion. On voit bien que c'est pour ça que les lois ne passent pas encore, ne sont pas encore abouties, et qu'on est plus face à des mesures ponctuelles par des organisations.
Alors David Leroy, là on a eu l'exemple de l'entreprise où vous êtes vice-président de l'université de Rouen. Vous avez créé ce congé menstruel à l'université de Rouen en octobre dernier. Il y a une dizaine d'universités, je crois, en France qui le proposent déjà. Pourquoi avoir pris cette décision ?
C'est exact, une petite dizaine qui s'en sont saisies, il y en a d'autres qui vont le faire. Alors faut revenir dans le fait que pendant le Covid, on a pris conscience qu'il y avait une précarité, dont une précarité menstruelle des étudiants. L'université de Rouen, c'est 35 000 étudiants, dont 20 000 étudiantes. Et donc pendant le Covid, et juste après, on a mis en place des distributeurs de serviettes hygiéniques, puis ensuite des culottes lavables à destination des étudiantes. Et c'est donc dans la juste continuité logique que on en est venu à mettre en place un congé menstruel pour les étudiants. Et toutes les étudiantes de l'université de Rouen qui sont responsables, qui sont majeures et donc qui savent pourquoi elles sont à l'université. Et si elles ne viennent pas, c'est qu'elles ont l'incapacité de se lever. Et donc on est conscient que ce congé menstruel, il est nécessaire pour elles.
Vous ne demandez pas de justificatif ?
Absolument. Comme je vous l'ai dit, l'université de Rouen a en face d'elle des étudiants et des étudiantes qui sont majeures, qui sont responsables, qui savent la raison pour laquelle elles sont à l'université et donc qu'ils viennent pour avoir un diplôme et qui font leur possible pour venir. Et le congé menstruel installe la facilité à ne pas venir dans certaines conditions telles que le congé menstruel.
Pardon David Leroy, mais vous avez parlé du confinement, de la crise sanitaire. Vous dites que c'est à la faveur de ces confinements qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une précarité menstruelle chez beaucoup d'étudiantes. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas rendu compte avant et pourquoi est-ce qu'on s'en est rendu compte à cette occasion-là ?
Beaucoup d'étudiants et d'étudiantes pendant le Covid n'ont pas été en capacité d'avoir une activité salariée. Et c'est là qu'il a fallu les aider de la meilleure façon possible, dont aussi pour fournir des serviettes menstruelles.
Ils avaient moins d'argent, ils avaient plus de revenus.
Exactement. Et les associations et les universités et les CROUS se sont saisis de ce sujet de la meilleure façon possible, il me semble.
Aline Boeuf, casser le tabou, ça veut dire aujourd'hui arrêter avec l'idée qu'on souffre et que c'est normal. Est-ce que c'est vers ça qu'il faudrait aller ?
Oui, il faut voir vraiment le congé menstruel comme une occasion, un temps qui est là, oui, bien pour se reposer, mais aussi avoir le temps d'aller chez le médecin et de faire, de suivre son parcours de diagnostic qui peut prendre extrêmement de temps. Et on voit bien que ça fait écho aux discussions que vous avez eues au début d'émission avec l'accès aux médecins généralistes et que c'est tout un questionnement avec le parcours de soins en France actuellement.
Alors, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, je l'ai dit, parce qu'il y a des craintes d'absentéisme, notamment. On a entendu le témoignage à l'instant de la directrice marketing de cette entreprise en Haute-Garonne qui nous dit, bah, chez nous, ça n'a pas provoqué d'absentéisme supplémentaire. Il y a aussi la crainte, et ce sont des associations féministes, je pense à Oser le Féminisme, qui relayent cet argument de dire que ça solutionne pas le problème, finalement, de dire aux gens, restez chez vous, quand vous avez mal. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait pas se dire, la douleur est normale, on prend un congé, et bon, ça ira mieux le mois suivant.
Effectivement, il faut voir ici une opportunité d'avoir le temps d'aller chez le médecin et aussi un moyen de sensibilisation, de se dire, bah voilà, j'ai été absente 12 fois cette année à cause de mes règles, ce n'est plus possible, je ne dois pas voir ça comme une fatalité. Mais ce congé, il donne l'opportunité de se poser ces questions-là.
Mais est-ce qu'il ne casse pas la dynamique de soins, si je puis dire ?
Ah, je pense qu'il libère du temps parce que c'est bien le problème aussi des personnes avec des jours de carence qui ne peuvent pas se permettre de prendre des jours de congé pour et qui juste serrent les dents. Dans les entretiens que j'ai menés, il y a beaucoup de personnes qui disaient bah en fait j'ai pas attendu le congé menstruel mais je serre les dents, j'y vais. Mais en fait il y a une souffrance et il y a des conséquences sur la santé en général qui sont énormes si on n'agit pas.
Si on suit ce que vous avez dit et écrit, Aline Boeuf, il y a aussi la diversité des situations. C'est, je crois, ce qui vous a frappé dans vos entretiens, c'est-à-dire que la situation est presque différente d'une femme à l'autre.
Effectivement, chaque personne vit son cycle menstruel d'une manière différente. Des personnes peuvent n'avoir aucune difficulté ou avoir des difficultés, par exemple, une année au cours de leur cycle. Il y a aussi des différences en fonction du contexte dans lequel elles travaillent, le contexte de travail, les infrastructures qui sont disponibles. Est-ce que c'est des personnes qui ont des emplois de bureau ou sur le terrain ? Une médecin ne va pas vivre forcément ses règles de la même manière qu'une employée de commerce ou une enseignante.
Oui, ça dépend aussi de la pénibilité du poste qu'on occupe. Pour ce qui est de la mise en place d'un congé ou d'un arrêt menstruel, évidemment, ça peut être plus facile à mettre en place pour certains types de postes que d'autres. David Leroy, je vous soumets la question de Marguerite, puisque vous êtes vice-président de l'Université de Rouen. Marguerite de Lyon, elle nous écrit la question suivante. Si les professeurs s'absentent pour des règles douloureuses, qui va les remplacer ? L'absence ne peut pas toujours être une solution. Est-ce que c'est une piste à laquelle vous avez réfléchi ?
Alors, je vais pas pouvoir répondre totalement puisque moi je suis vice-président en charge de la vie étudiante. Mmh. Donc, les congés menstruels qui ont été installés dans les établissements sont à destination des étudiantes. La dizaine d'universités que vous avez citées sont concernées uniquement par les étudiantes. Alors, il y a une responsabilité sociétale qui doit être mise et réfléchie au sein des établissements universitaires à l'aune de ce qui se passe dans les entreprises, mais qui relève pas de mon périmètre.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion chez vous autour des professeurs ? Alors, des enseignants ?
Il y a une réflexion.
Ou c'est pas du tout du ressort de l'université et c'est pas possible à mettre en place ?
Il y a des réflexions qui sont menées dans chacun des établissements. C'est quelque chose qui se réfléchit, par exemple, sur Angers, sur l'université d'Angers. Du côté de l'université de Rouen, on n'a pas encore été saisi de cette question au niveau des personnels.
À Angers, ils y réfléchissent ou ils l'ont déjà mis en place ?
Ils y réfléchissent.
Réfléchissent. Donc, congé menstruel pour les professeurs en cas de règles douloureuses. Je reviens à ce que vous avez mis en place pour les élèves, David Leroy, parce que vous aviez constaté finalement qu'il y avait difficulté à parler de ce sujet. Est-ce que depuis octobre, vous avez mis en place ce congé menstruel pour les étudiantes, vous avez le sentiment d'avoir levé le tabou et qu'il y a davantage de discussions autour de ça ? Est-ce que vous l'avez accompagné peut-être, je ne sais pas, de tables rondes ou de présence de médecins au sein de l'université pour en parler ?
En fait, le tabou, il a été levé bien avant, dès lors qu'on a commencé à distribuer avec les associations des serviettes hygiéniques ou des culottes lavables, on a levé l'ensemble des discussions autour de cet aspect-là. Et le congé, finalement, il y a il n'y a pas de discussion autour de ce congé puisque c'est une juste continuité de ce qui se passe depuis 3 ans. Et donc c'est quelque chose d'assez logique, d'assez normal dans la vie de l'établissement.
Concernant la lutte contre la précarité menstruelle, vous nous l'avez dit, distribué un kit d'entrée à la fac pour toutes les étudiantes avec une culotte menstruelle lavable. Et vous avez constaté, alors ça marche, mais vous avez constaté quelques réticences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, la difficulté auquel on est confronté de temps en temps, c'est que c'est vrai que utiliser une culotte lavable, c'est pas ce qu'il y a de plus simple ou ce qui peut ne pas être utilisé habituellement. On a un certain nombre d'étudiants étrangères, par exemple, qui continuent de préférer les serviettes hygiéniques. C'est la raison pour laquelle on continue d'approvisionner nos distributeurs dans les toilettes pour pouvoir répondre à tous les besoins de toutes les étudiantes.
Est-ce que vous savez pourquoi ces étudiantes étrangères réagissent de la sorte ? Pourquoi elles ont cette réticence ?
Je suis incapable de vous répondre sur ce point-là.
Et ça fonctionne, le dispositif ? Vous avez constaté des bénéfices, notamment en termes peut-être d'absentéisme de ces étudiantes à qui vous pouvez distribuer ces kits ?
En tout cas, on est remercié. Et c'était une nécessité pour beaucoup d'entre elles que de pouvoir avoir à disposition des culottes et des serviettes qu'elles n'étaient pas nécessairement en capacité de s'acheter précédemment.
Ludivine Brousse, vous êtes toujours avec nous. J'ai rappelé que vous avez été la première entreprise de France à proposer des jours de repos menstruels à vos salariés. Vous êtes directrice marketing chez Louis. Après cette initiative en 2022, d'autres entreprises vous ont appelé en France, c'est bien ça ?
Oui, exactement.
Qu'est-ce que vous leur dites quand elles vous appellent ?
Ben nous, on partage notre démarche et surtout on répond à leurs questions parce que du coup beaucoup ont ces craintes-là de est-ce qu'il y aura plus d'absentéisme, comment le mettre en place, quelle est la procédure et finalement elles veulent aussi le retour d'expérience et voir s'il n'y a pas d'abus, comment on a pu mettre en place. Et ils sont souvent très surpris du fait que ben nous finalement on a pu le mettre de façon assez simple, on est une petite structure et du coup effectivement il n'y a pas eu de grosses démarches administratives pour pouvoir le mettre en place vu que tout est basé sur la confiance chez nous.
Je vous livre, Ludivine Brousse, la question et le témoignage de Charlotte. Pour moi, les congés menstruels sont inégalitaires. Toutes les femmes ne sont pas incommodées. C'est stigmatisant. C'est aussi faire la part belle à l'individualisme. Pourquoi les règles et pas d'autres douleurs chroniques qui touchent aussi bien hommes et femmes ? Je vais devoir pallier l'absence de ma collègue et moi qui s'occupe de mes problèmes. Alors je suis pour la prescription médicale, nous dit Charlotte. Vous avez quelque chose à lui répondre, Ludivine Brousse ?
Non, simplement de nous partager ce qu'on a pu avoir. Nous, chez nous, il n'y a pas eu d'abus. Et moi, quand il y a des collègues qui ont été absents pour ça, on n'a jamais eu ce problème finalement où la charge de travail, elle a été répercutée sur les autres. Donc non, il n'y a pas de problème lié à ça et c'est plus des craintes liées à quelque chose qu'on ne connaît pas.
Merci à vous d'avoir participé à ce 13-14, Ludivine Brousse, donc depuis la Bège en Haute-Garonne. Je remercie également Aline Boeuf, je renvoie à votre essai « Briser les tabous des règles ». Je salue également David Leroy, vice-président de l'Université de Rouen, 13h47. Une semaine dans leur vie, nous passons cette semaine avec des chiens, pas n'importe lesquels, les chiens de la police nationale, premier épisode aujourd'hui, là où tout commence, à Canécluse, en Seine-et-Marne, où ils sont formés.
Il faut savoir que la première préoccupation du chien, c'est d'être en extérieur du box avec son maître, parce qu'eux ne travaillent pas, hein, ils jouent. Donc là, on leur crée de fausses joies et ils attendent juste de pouvoir sortir pour aller être avec leur maître et jouer.
Bonjour, Fabrice Deckmann, adjoint au chef du CNFUC, Centre National de Formation des Unités Cynotechniques.
Ces bâtiments ici, c'était l'écurie du château. Le chenil, il est divisé en deux parties, la zone vie, là où on se trouve, et la zone chenil où se trouvent les chiens. Donc on la sépare parce qu'en fait, on accorde des temps de pause sur la période méridienne aux chiens entre midi et 1h30. C'est un temps de pause important où on interdit toute circulation dans le chenil. Et le soir, à partir de 17h, distribution des repas, et pendant une demi-heure, il n'y a que certaines personnes, les permanenciers, qui sont autorisés à contrôler les chiens dans leur environnement, de manière à ne pas créer d'excitation majeure dans le chenil après les repas.
On est à Canécluse. Le Centre National de Formation des Unités Cynotechniques a pour vocation à former tous les chiens et tous les fonctionnaires de police qui travailleront avec ces chiens. 60% de nos chiens ils sont achetés auprès de personnes qui revendent des chiens. Ensuite, on a 40% de nos chiens qui sont issus de dons. On a signé un partenariat il y a 2 ans avec le président de la SPA qui nous permet de recruter des chiens au sein de la SPA. Quand ils ont un chien particulier, ils nous appellent.
90% de nos chiens sont des bergers. Et les 10% restants, c'est des chiens de chasse. Nous avons les chiens qui recherchent des produits stupéfiants. Nous avons des chiens qui recherchent des produits explosifs. Nous formons également des binômes à rechercher des armes, des munitions et de la monnaie fiduciaire. Nous recherchons des engins pyrotechniques et des artifices. Et nous recherchons également des personnes disparues. À partir du moment où on nous propose un animal, il est testé. Donc ce qu'on teste, c'est ses qualités naturelles. On n'essaye pas de tester un chien qui a été préparé. S'il est joueur et qu'il a tendance à se servir de son nez, parce que naturellement le chien ne se sert pas toujours de son nez, et bien là justement on va l'orienter dans la recherche olfaction. S'il est plus dans la défense de son maître, défense naturelle, là on va l'orienter sur les unités de défense-intervention qui, elles, interviennent en secteur difficile ou pour assurer la sécurité de nos collègues en difficulté. Si le chien est confirmé dans son test, pendant 40 jours on vérifie sa progression. S'il confirme sa progression, s'il confirme ses qualités naturelles, il est intégré au cheptel de formation. Il dispose d'un matricule, il est dressé à son futur métier, on lui donne les bases. Et ensuite, il est affecté à un conducteur pendant une période allant, en fonction de la spécialité, de 12 semaines à 14 semaines. Et il intègre une unité opérationnelle. À aucun moment, le chien est en contact avec le produit qu'il recherche. Il n'est en contact qu'avec la dispersion moléculaire du produit, c'est-à-dire l'olfaction. Une fois qu'il a la connaissance de ce produit, vous pouvez le mélanger à n'importe quel autre produit, il arrivera à retrouver le produit qui lui permet d'obtenir sa récompense. On entend souvent « je vais cacher des stupéfiants dans du café », moi j'en ai trouvé dans du café. Vous pouvez le cacher, y compris dans du poivre, nos chiens le retrouvent. Alors je vous dis pas que ça le fait pas un peu éternuer, néanmoins, il a la capacité à le retrouver. C'est ce qui m'a toujours impressionné, tant dans les capacités du chien, et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ce métier, c'est de pouvoir communiquer avec un être vivant, le chien, sans parler. Voilà, ça c'était l'élément qui peut-être a déterminé ma venue en unité cynotechnique.
Notre feuilleton au Centre National de Formation des Unités Cynotechniques avec Ariane Grissel toute cette semaine et la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, 13h51, le lundi, Thomas Negaroff. Vous nous racontez l'histoire d'un lieu dans l'actualité. Et aujourd'hui, Thomas, vous revenez sur la mort d'Alexis Grüss. Ce week-end, très grand nom du cirque en France. Et cela nous conduit en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines.
Oui, jolie petite ville du Haut-Rhin, où règne un air de moyenne montagne, mais qui, au 19e siècle, grâce à l'industrie textile, fait d'elle la troisième plus importante ville du département. C'est précisément à ce moment-là qu'une partie de l'histoire française du cirque se joue, et précisément l'histoire d'Alexis Grüss. À l'époque, les cirques itinérants passent l'hiver dans des granges, profitant de l'hospitalité des locaux. Nous sommes dans les années 1860, le cirque Marinetti, fondé par un écuyer italien, trouve refuge chez un local, un certain Charles Grüss, un jeune tailleur de pierre de 20 ans. Et ce qui devait arriver arriva, il tombe amoureux de Maria Marinetti, la fille de l'écuyer italien. Il l'épouse, il abandonne son métier et sa maison et il suit le cirque qui reprend la route, très costaud, hein, tailleur de pierre. Il aide à monter le chapiteau et devant le public arrache les chaînes qu'on a cadenassées autour de son cou
incroyable.
Et de son torse. C'est la première fois qu'un Grüss se produit sous un chapiteau. Allez, encore quelques années et le cirque Grüss est créé.
Et c'est le début d'une dynastie.
Oui, une histoire de famille où le geste passe de père en fils, d'oncle à neveu, ainsi que l'explique ici Alexis Grüss lui-même. Nous sommes le 2 janvier 1988 sur France Culture dans l'émission mythique Le Bon Plaisir.
J'ai eu la chance, si vous voulez, d'avoir un père auguste, c'est-à-dire clown, et technicien de cirque, puisque c'est mon père qui nous a tout appris dans la façon de faire marcher un cirque. Et puis la chance aussi d'avoir un oncle qui s'appelait Alexis Grüss, qui lui était spécialisé dans l'art équestre et qui nous a enseigné toutes les disciplines équestres. Quand je dis toutes, c'est toutes.
Le Bon Plaisir, émission phare de France Culture consacrée donc à Alexis Grüss, c'est dire à quel point il compte alors dans le monde du cirque et plus largement dans celui de la culture.
Absolument, il est celui qui a sauvé le cirque traditionnel, dit-on habituellement, moribond à la fin des années 1960, concurrencé par le cinéma et plus encore par la télévision, qui d'ailleurs diffuse beaucoup de cirque à la télé, mais oui. Le cirque en vrai a tendance à être un peu à tirer la langue. Le cirque se réinvente donc, mais dans la tradition avec Alexis Grüss au début des années 1970. Et si nous avions commencé cette chronique en Alsace, il nous faut la terminer en plein Paris, dans le Marais, où la grande comédienne et directrice de théâtre Sylvia Montfort accueille la famille Grüss dans le carré Torigny. C'était il y a 50 ans, en 1974, quand est fondé par Alexis Grüss et sa femme Gypsy, le cirque à l'ancienne qui délaissait les numéros de dressage de fauves pour revenir à l'acrobatie et à l'art équestre, dont Bartabas est un héritier, Sylvia Monfort revient sur son rôle 4 ans plus tard, en octobre 1978, au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie.
En 5 ans, oui. Les Grusses ont fait 5 programmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des numéros de cirque qui n'auraient jamais existé. Parce qu'on ne peut pas changer tous les jours de ville, reprendre la route.
Ils peuvent repartir pour plusieurs générations.
Je l'espère.
On l'espère, avec 6 enfants et 14 petits-enfants. La dynastie Grusse naît donc en Alsace et relancée dans le Marais. A certainement encore de très beaux jours devant elle.
Merci Thomas Snegaroff d'avoir retracé l'histoire de la dynastie Grusse. Gardons le chapiteau ouvert pour accueillir un autre artiste qui écrit et qui chante celui-là. Puisque toute cette semaine, nous donnons carte blanche dans ce 13-14 au chanteur Raphaël à l'occasion de la sortie de son dernier album Une autre vie. Et jusqu'à vendredi, il nous parle des chansons qui ont marqué sa vie avant de les reprendre. Et aujourd'hui, Raphaël partage avec nous un souvenir d'enfance.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, je vous emmène très loin dans le temps, dans des souvenirs marécageux, presque dans la préhistoire. J'ai 4 ou 5 ans, c'est l'été dans le sud de la France. Et j'ai une cousine, un peu hippie, qui a une quinzaine d'années, qui se promène seins nus tout le temps, elle est très belle. Et elle a un disque qu'elle passe tout le temps. Alors je m'approche de tourne-disque et je vois une pochette qui ressemble à une planche de bande dessinée. Et c'est un homme dessus, je sais pas très bien si c'est un homme ou une femme ou un clown, et je trouve ça très intriguant. Et un jour, elle met la musique sur le tourne-disque. Et là, je suis comme foudroyé, comme si la musique venait du fond des mers. C'est une chanson qui s'appelle Ashes to Ashes, et je crois que c'est la plus belle chanson du XXe siècle. Et c'est David Bowie.
It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fun to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low.
C'est une comptine enfantine. Ashes to Ashes, la fin, c'est vraiment, on dirait, une comptine des années 1920-1930. Et ça fait vraiment, il y a cette chose de la solitude de l'enfance, je trouve que c'est la chanson qui la comprend le mieux. Donc j'avais l'impression que ça parlait totalement à la personne que j'étais à cette époque-là. Cette chanson, musicalement, c'est un ovni absolu, c'est quelque chose que Bowie a souvent fait, une sorte de ballade 60s, sur lequel il superpose une deuxième couche, qui est une couche, là, c'est une couche un peu fun, quoi, où il met de la slap basse et de choses comme ça, et en plus des couches un petit peu bruitistes et tourmentées. Mais au début, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être presque une chanson vieillée, quoi. Alors, moi, je vais essayer d'en faire une version totalement épurée, dépouillée, à côté de l'original, mais en tout cas, ça a le mérite d'être ma petite version.
Do you recall a guy that's been in such an early song? I heard the rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. I've got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've never loved or needed love. Sordid details following. I've never done good things. I've never done bad things. I've never did anything out of the blue. I want an axe.
wants to break the ice. I wanna come to right now. Ashes to ashes, phone to funky. We know Major Tom is the junkie, strung out in heaven's height, eating an old time low. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom.
C'était Ashes to Ashes, interprété par Raphaël. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Merci Raphaël, et à demain pour la suite de ces cartes blanches dans ce 13-14.